Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
On a digressé, hein. On a digressé.
J'ai plus de place sur mon disque dur. Hein. Je commence à en désaler.
Oh merde.
Non, ça va, il me reste 129 heures, ça va, on peut...
On est dans la bande-annonce. Bah,
vous voyez un bouton rouge qui s'allumait, Oula, non, ça va.
Franchement, Erwan, commenté pendant 30 on minutes, trois pauvres screenshots de Slay the Spire 2, là, c'était obligé.
Je suis désolé. Non.
Ouais, mais 30 minutes, c'est peut-être un peu long, non?
Ce sera une fois monté, on a fait 1h30 quand même. Hein.
C'est vrai.
Ils peuvent s'estimer, ouais. C'est une blague. Écoutez quand même l'épisode. C'est pas vrai. On est dans la bande-annonce.
C'est quoi la question, finalement?
C'est ça. On est dans la bande-annonce. C'est une question de Jean-Paul Cartable. Quel est votre péché de joueur le plus honteux, Corentin?
C'était pas facile à trouver.
C'est vrai.
J'ai réfléchi. Au début, je me disais... Est-ce que je vais parler du fait que j'ai le syndrome de la potion? Mais tout le monde a le syndrome de la potion. Alors, le syndrome de la potion, si vous voyez ce
c'est
que
quoi,
c'est...
C'est quoi? Non, vas-y.
C'est terminer les jeux avec ses consommables, sans jamais les avoir utilisés. Avoir la potion de soin qu'on n'aura jamais utilisée, parce que ça servira toujours plus tard.
Ah bah oui, mais c'est fait. Et pour... Sur Dragon's Dogma, Marius nous en parlait, hein, ces trucs que tu pouvais acheter en DLC pour quelques euros. Il a fini Dragon's Dogma avec 2 ou 3 dans sa...
Normal.
Dans son sac.
Mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment honteux? Non.
Non.
Tout le monde le fait, ça. Mais en fait, je me suis rappelé de quelque chose, c'est... Bon, je joue pas trop d'habitude à des jeux compétitifs parce que je suis beaucoup trop impliqué dans les jeux compétitifs, personnellement, quand je m'y mets. Donc, à part quelques exceptions, j'essaie de pas trop me faire de mal. C'est un peu malgré moi, je deviens hyper compétitif et je suis pas forcément... Je suis pas la plus belle personne quand ça m'arrive, on va dire. Du coup, je à part Splatoon et les jeux de cartes le dimanche, j'évite. Mais par contre, quand j'y joue, c'est vrai que j'ai tendance à regarder en boucle de mes bons moments, mes passages vraiment réussis. Oh là, quand même, t'as bien joué. Oh là, t'as été bon là. Ah oui, oh, t'as été bon. Oh là là, mais quel beau gosse. Mais qu'il est bon. Et c'est vrai que parfois, je m'en veux un peu de me dire, tu devrais pas prendre autant de plaisir à te regarder comme ça, faire une bonne action, alors que le reste n'était pas dingue ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai tendance à juste regarder les moments importants réussis. Alors que d'un pur point de vue apprentissage, et ça on l'apprend quand on joue à Splatoon, notamment Splatoon avec un excellent système de replay, où tu peux vraiment suivre n'importe quel personnage, prendre n'importe quel angle de vue, etc. Moi, je regarde, mais évidemment, certaines parties où il y a eu du beau jeu, évidemment que je les regarde. Mais que quand c'est moi qui fais le beau jeu. Et jamais, alors que normalement, ce système de replay, si tu veux progresser dans un jeu comme Splatoon, il faut regarder les moments où tu joues mal pour te corriger ensuite.
Oui.
Et donc, j'ai du mal à me regarder faire de la merde. Parce que, évidemment, quand on a le nez dans le guidon, quand on est en mode focus, quand on joue, on voit pas les erreurs qu'on fait. Quand tu regardes en replay, tu vois que t'es pas bon, quoi. Ouais. du coup, voilà, j'ai un peu honte de pas être capable de me regarder mal jouer et de grandir en tant que joueur et de me focaliser sur mes belles actions. question, mais qui me donne envie de peut-être.
Écoute,
de percer
c'est,
aussi.
C'est rigolo. Je me suis re-regardé jouer pour la première fois il y a pas longtemps. J'ai relancé mon speedrun Hades.
Ah oui.
Mais parce que en fait, je me regardais jamais. Et en fait, c'est rigolo de des mois après, tu sais, des mois après revoir. Non, c'était marrant.
Non mais. Erwan, je regarde régulièrement la fin de mon 799 qui est un petit peu ma chapelle 16 en termes de. Hein, mais c'est il faut. Enfin, ça va. C'est, vous avez mangé, Coco, t'es égocentrique. Là, arrête de te regarder, ça suffit. Mais vraiment, c'est une espèce de pire quoi. Je sais que c'est. Non, mais c'est un peu sain de s'aimer. Il faut s'aimer un petit peu quand même. Il faut s'aimer un petit peu.
Mais oui.
Toute proportion gardée, mais je le fais un peu en cachette.
Mais c'est un péché honteux. Je suis d'accord.
C'est un péché honteux. Bon, voilà.
C'est très bien.
Question pas facile, mais je suis quand même pas mécontent de ma réponse.
Patrick, est-ce que tu as des péchés honteux?
Alors oui, alors moi je me regarde pas forcément jouer. Je trouve ça très malsain, mais. non, moi c'est peut-être en regardant ma collection de boîtes. J'ai un rapport aux boîtes, au physique, où je me vois en fait dans cette collection et je sais que parfois je. C'est un peu honteux, quoi. C'est-à-dire que je me suis soigné du blister. C'est-à-dire que j'arrête avec les blisters. C'est-à-dire que j'ouvre les blisters. Je joue au jeu maintenant. J'ai arrêté avec ça.
J'ai eu cet
électrochoc de me dire, bah, un jour je partirai. Il y aura encore des jeux sous blister. C'est à quoi ça sert? Enfin, à un moment, stop.
Le syndrome de la potion.
Et je me dis, enfin, je suis pas pour la revente. J'ai pas cette optique. C'est vraiment l'objet. J'ai une affection. Il y a des jeux que j'ai rachetés. Enfin, il suffit de lever les yeux et je vois un White Knight Switch que j'ai racheté en boîte. Alors, je l'avais fait en démat, mais je l'ai racheté en boîte. C'est
mais
pas bien, je sais.
Il y a peut-être une solution, Patrick. Il faudrait qu'on t'offre une machine à blisteriser les jeux comme
ah
ça.
Non, mais je ah non, mais j'ai.
Et les reblisteriser derrière.
Ah non, mais j'aime plus. Non, mais je m'en fous du blister. J'ai vraiment fait une croix là-dessus. Donc, ce rapport peut-être à l'objet jeu vidéo physique un peu vain, en fait, en soi, même si finalement, c'est un reflet de son expérience de jeu. En fait, j'aime bien le fait que ça reflète ma trajectoire de joueur. Moi, je suis toujours ravi quand je retrouve mes jeux Amstrad en boîte, mes jeux Amiga, le carton. Enfin voilà, ce rapport au physique, bah, il est très marqué. J'en suis pas super fier parce qu'en plus, ça prend de la place, hein, ces boîtes en plastique, ces machins. Mais ils font partie de mon histoire et c'est comme ça. Non, sinon, dans les comportements de jeu, bah, moi, j'ai toujours ce problème de rapport au tiroir. De rapport à l'ouverture des portes et des machins qui s'aggravent. Je suis un peu inquiet. Je me rends compte que sur certains des derniers jeux dont on parlait, j'ai vraiment eu cette frénésie d'ouvrir les tiroirs. Parce que, en fait, quand j'ouvre un tiroir de jeux vidéo, j'attends qu'il y ait un support narratif derrière, que ça raconte quelque chose. Et dans 95% des cas, ce sont des tiroirs vides qui ne servent à rien.
Ouais.
Et pire que ça, je me suis rendu compte que j'ai une autre surcouche maladive qui s'est ajoutée à ce problème des tiroirs, c'est la surcouche, n'ayez pas peur, hein, on en est là pour en parler, c'est le fait de refermer les tiroirs et de quitter une porte. Vous savez, je me sens pas bien, c'est que je quitte une salle virtuelle, hein, je précise bien, des salles virtuelles où personne ne me regarde, je suis tout seul devant ma console, et je referme les tiroirs, je referme tous les trucs pour que quand je quitte la pièce, il n'y a rien qui déborde. Et je suis pas bien avec ça, je passe un temps fou. C'est pour ça que j'avance pas assez dans les jeux, parce que je passe mon temps à ouvrir les tiroirs, les refermer avant de quitter la pièce. Ça ne sert à rien, personne ne me juge, mais c'est moi-même qui me regarde en train de jouer et c'est très malaisant. Voilà.
Oui, surtout, c'est contre-productif parce que.
Mais complètement.
Moi, je les laisse ouverts pour savoir que je les ai ouverts et
je les referme. Et je me rappelle, je crois que ça avait commencé et je peux même le marquer, c'est dans Resident Evil 7. Je me rappelle encore du frigo dans la maison, dans Resident Evil 7. On pouvait l'ouvrir et je le refermais toujours. Tu refermes les trucs.
Avec les lasagnes aux asticots, là.
Depuis, c'est une descente sans frein. J'ai un vrai problème de tiroir et de placard. Et le jeu de la semaine dernière m'a rendu malade avec les tiroirs vides. Qu'on ouvrait, je ne me rappelle plus du
mais
titre.
Là, ça rentre peut-être dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs. Oui,
mais alors, en plus, que je n'ai pas vraiment IRL, enfin, mais je les gère bien, mes tiroirs. Bon, ils sont fermés en même temps. Mais je les ouvre de façon pratique pour accéder à un objet aussi.
C'est le but.
Le jeu vidéo nous pervertit là-dedans. On ouvre pour essayer de comprendre quelque chose, avoir un brin de narration. Et en fait, il n'y a rien des fois. Il n'y a rien de pire qu'un tiroir vide dans un jeu vidéo. Ouais. Tu le refermes. C'est gênant, voilà. Et ce problème s'aggrave. Enfin, vraiment, je sens que ça devient un vrai souci.
Je
plaisante, hein,
c'est pas
un vrai problème. Mais quand même, selon les jeux.
Je me rappelle de ce que t'avais dit à l'époque de. C'était le remake de Link's Awakening, je crois, où tu cassais tous les pots et il fallait couper toutes les herbes, quoi.
Ah, ça, alors ça, ne me parle pas des Zelda. Je c'est horrible. Je coupe toutes les herbes tout le temps à la recherche du pauvre truc qui va être... Et pour moi, quand il y a de l'herbe, elle m'appelle. Elle appelle. Et les peaux sont là pour ça.
Ouais, l'herbe, bon, ouais. Elle m'appelle. Vraiment excellent.
Ah ouais, non. Vraiment excellent. N'y voyez pas un sous-entendu un petit peu. Non, non, pas du tout. Non, mais pour moi, il y a un trope. Quand un objet de jeu vidéo est là, il doit servir. Enfin, il n'est pas là que pour la déco. Et un tiroir, il est là pour être ouvert, pour être ausculté. Et quand il est vide, c'est triste. On le referme et la mort dans l'âme. Remplissez les tiroirs, s'il vous plaît. Mettez des choses, je sais pas. Bref.
Moi, j'ai... Moi, pour ma part, en fait, bon, il y a... Comment dire ? J'essaie de... pour pas paraître trop honteux dans cette histoire. Historiquement, je me suis souvent senti honteux, c'est donner de l'argent à des free-to-play. Je sais que c'est un modèle économique. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Je sais qu'il n'y aura pas de free-to-play s'il n'y avait personne qui faisait ce genre de choses. J'avoue que ça m'est très rarement arrivé. Ça m'est arrivé au début de Clash Royale, qui a été quand même mon premier jeu service free-to-play auquel j'ai joué beaucoup avant d'arrêter. Alors, ça m'était arrivé juste au début. Je l'avais pas refait après tout ça. Aujourd'hui, je suis un peu en paix avec ça parce que, notamment, je donne de l'argent à Marvel Snap. Parce que Marvel Snap est rentré dans ma vie en tant que passe-temps. Vraiment, c'est même pas une addiction, c'est un passe-temps, mais que j'adore. Je trouve que c'est un excellent jeu, vraiment. Un an et demi après sa sortie, je trouve qu'il est toujours mortel. Et donc, je paye tous les mois Marvel Snap une somme totalement indécente parce que leur passe mensuel est monstrueusement cher. Je paye 10€ par mois à Marvel Snap, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'accepte. Tu vois, je suis même pas honteux. Mais le moment où ce genre de pratique a été vraiment très honteuse, c'est sur un jeu payant, en fait. J'ai payé des virtual coins sur NBA 2K23. Pas le 24, je sais pas... Mais pour vous dire à quel point je me suis vraiment senti honteux à ce moment-là, mais je l'ai fait, c'est que, en fait, quand tu montais un joueur, c'est long. Mais c'est long, sa mère, quoi. Et donc, bon, tu montes ton premier joueur, tu découvres le jeu, tu... Et en fait, bah, quand t'es arrivé à un niveau 90, donc tu marches un peu sur le jeu lui-même, t'as envie, et en fait c'est une des forces d'NBA 2K, c'est en fonction du poste de ton joueur, si tu joues meneur, si tu joues ailier, si tu joues pivot, c'est des gameplays totalement différents, donc c'est des expériences de jeu vraiment, vraiment cool. Et en fait j'avais envie de faire d'autres types de joueurs, sauf que je savais, on était arrivé en novembre, je savais que moi ma durée de vie de NBA ne passe pas l'année, c'est-à-dire généralement après décembre je ne joue plus, et donc je savais que si je voulais tester d'autres types de joueurs, et ben voilà, c'était mort pour arriver à des niveaux de jeu où je peux vraiment m'amuser. Et donc en moment où j'ai mis ma carte bleue pour acheter de la monnaie virtuelle sur NBA 2K, vraiment,
tu t'es regardé dans le miroir
là, mais c'était désagréable. Je l'ai plus fait, mais c'était vraiment, j'en ai même pas parlé à Marius. Le niveau de
Marius,
honte.
Fais-nous signe quand t'entends.
Ah non,
ça.
Mais il va se foutre de ma gueule. Le niveau de honte. Non, mais il y avait un côté un peu sale. Pas de honte, ça va. J'ai survécu et j'ai joué avec ce pivot et j'ai adoré jouer avec ce pivot. C'était cool. Mais devoir payer pour ça, enfin, c'était vraiment sale. En fait, c'est vraiment parce que la pratique est sale en elle-même. Hein. C'est ouais. Voilà. Et vous, chères auditrices, chers auditeurs. Avouez maintenant, on est curieux de savoir quel est votre péché de joueuse, de joueur le plus honteux. On attend vos réponses sur le Discord de Silence on Joue. Il y a un salon bande-annonce pour ça et sur les réseaux sociaux. Et nous, on vous donne rendez-vous demain pour l'épisode de la semaine de Silence on Joue. Ciao.
Ciao.
Ciao.